Le RKS Foot Time Show. Ils aiment le foot. Ils sont amis, mais ils ne sont jamais d'accord. Rejoignez Melvin, Pierre et Kevin dans la nouvelle émission de débat 100% foot sur RKS. Le RKS Foot Time Show. Foot Time Show.
Hey, salut à tous et bienvenue dans le RKS Foot Time Show. On est lundi 19h. Il est l'heure de votre rendez-vous footballistique. Et bien sûr, avec moi, j'ai mes deux acolytes, puisque je suis en présence de Kevin et Pierrot, tous les trois aujourd'hui réunis dans les studios. Salut mon Pierrot.
Salut, salut, salut à tous. Bonjour les auditeurs, bonjour les auditrices. Ravi d'être avec vous encore pour un super live.
Et toi mon Kevin, comment tu vas?
Difficile, réveil difficile ce matin.
On va en parler.
Je me suis couché hier avant 23h, chose qui n'était jamais arrivée depuis longtemps. Mais je suis content d'être avec vous malgré tout.
Bon, c'est vrai que c'est un vrai plaisir. Aujourd'hui au programme, on va justement parler des chocs européens de ce week-end, notamment de Liverpool face à Manchester et de l'Inter face à la Juventus. On reviendra bien sûr Ligue 1, mais on parlera un peu plus du cas Kylian Mbappé. On parlera aussi bien sûr du GF38 et de la défaite à Toulouse. On aura l'honneur d'avoir Laurent David, un autre champion de National 2001 du côté du GF38. Et cette fois, on va le respecter, on va le faire. Messieurs, dames, on aura bien sûr...
RKS Foot Time Show, le quiz.
Voilà, on aura le quiz.
Il est prêt.
Il sera enfin de retour. Mais avant toute chose, on est bien sûr sur RKS. RKS. Allez, on va commencer notre émission justement avec le premier sujet, puisque ce sont les gros matchs européens qui ont lieu ce week-end. On va commencer pour moi par le choc des chocs en Première Ligue, puisque Liverpool et Manchester United se sont affrontés hier. Messieurs, on a assisté à un match en demi-teinte, puisque une première mi-temps, je peux vous dire que même la Ligue 1, des fois, ça joue vraiment mieux en moyenne. Et on assiste une deuxième mi-temps où c'est beaucoup plus tactique, où c'est plus technique, où on voit du football... du football anglais comme on les aime, avec deux équipes de gros niveau, hein, mon Pierrot.
Ouais, bon après tu parles de la première mi-temps, je pense que si la première mi-temps elle est aussi insipide, c'est en grande partie parce qu'il n'y a qu'une équipe qui est rentrée sur
exactement
le terrain. Manchester United, c'était affligeant tant défensivement qu'offensivement, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis le bus, ils se sont mis à 11 dans la surface, et ils attendaient que Liverpool monte. Après, Liverpool n'a pas fait preuve forcément de beaucoup de justesse devant le but, c'est ça le problème. Parce que je pense que Liverpool devait revenir à la mi-temps avec l'avantage, et c'est là entre guillemets où ça s'est joué. Quand tu regardes en fin de première mi-temps, de mémoire, je crois qu'il y avait une dizaine de frappes pour Liverpool avec un seul tir cadré. En face, Manchester United ne mettait pas un pied devant l'autre, il ne faisait rien du tout. Je me demande même s'il y avait une frappe du côté de Manchester United en première partie.
Une non cadrée.
Voilà, une non cadrée. Et en deuxième mi-temps, en fait, le match est un petit peu plus équilibré. Manchester United a commencé à prendre confiance et à sortir de sa zone, mais très loin du choc qu'on attendait. Tu vois, sans faire de parallèle, mais tu parlais des matchs de Ligue 1, mais je vais en faire un. Le match de Lyon contre Metz, ça se termine à 1-0 en toute fin de match, mais ça jouait au foot, quoi. C'était dynamique, c'était porté vers l'avant. Là, Manchester United, en fait, ils ont joué avec la peur au ventre de voir Liverpool revenir sur leurs talons, donc ils ont.
Mais c'est arrivé quand cette mode en Angleterre maintenant de mettre le bus quand on rencontre une équipe qui est sur le papier plus forte. Moi, j'ai toujours le souvenir de. Bon, alors autant j'ai beaucoup critiqué dans ma jeunesse le football anglais parce que j'estimais que c'était encore d'un niveau un cran en dessous de certains championnats, mais autant depuis ces dernières années, les années 2010 notamment, pour moi, il n'y a pas meilleur championnat en termes de spectacle. Et je trouve que on voit à contrario aussi de plus en plus de clubs comme Manchester. Pourtant, Manchester, ce n'est pas un petit club, hein, mais qui joue justement...
Il est placé quand même en leader du côté de
Liverpool. Oui, voilà. Mais justement, je ne comprends pas pourquoi... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'on voit ça de plus en plus. Bon, Mourinho le fait à outrance, que ce soit dans n'importe quel club. Donc, c'est sûr qu'à Tottenham, ils sont prudents aussi. Manchester, je m'attendais pas à ce qu'ils fassent ça. Avant, les chocs Manchester-Liverpool, Manchester-United contre Manchester City, je sais pas, Arsenal, etc., Chelsea, c'était forcément que des rencontres où t'avais du spectacle, où ça jouait, où ça, on s'en foutait de prendre deux buts tant qu'on en mettait trois. J'ai l'impression que ça a changé, ou du moins c'est peut-être en train de changer.
De toute façon, c'est simple, à chaque fois qu'RMC fait une grosse annonce sur un match se choquent au sommet. À chaque fois, je me mets devant l'écran et à chaque fois, j'ai été déçu. C'est incroyable. Hein. Mm. Il faut attendre que Liverpool joue contre des petites équipes pour aller planter 7 buts. Et à chaque fois qu'ils se retrouvent face à un gros et on dit maintenant, ils ont besoin d'un match référence, faut qu'ils fassent la différence. Tu as l'impression qu'en fait,
ouais, c'est mais comme si je jouais pas, avec la je mets peur pas la faute sur Liverpool, moi. Hein. Je mets la faute sur Manchester qui est arrivé avec le bus quand même. Liverpool, bon, même si je vais en parler plus tard, mais je supporte pas les clubs qui disent, qui justifient leur mauvais match par des absences de joueurs. Ils jouent quand même avec Henderson, Fabinho derrière, les pauvres. Au milieu de terrain, du coup, ça t'empêche d'avoir justement suffisamment de joueurs créatifs, même s'il y a toujours Thiago Alcantara. Mais pour moi, bon, ils ont quand même des circonstances atténuantes ces derniers temps. Et puis, on peut pas leur en vouloir de pas trouver la solution quand il y a une équipe qui joue à 40 derrière, quoi.
Mais t'as l'impression qu'il joue avec la peur au ventre de perdre ses places européennes. En fait, les places européennes qui valent tellement cher en Première Ligue, dès lors en fait, où le gotha des 5 premiers se rencontre, c'est toujours extrêmement catastrophique. Et là, pour le coup, Manchester United, c'est dommage parce que j'ai pas compris la manière dont ils ont joué. Alors, on va dire que Manchester United, avec 2 points d'avance, n'était pas dans l'obligation de faire un résultat contre
3.
Liverpool.
2 points d'avance.
Oui, mais 2 points d'avance sur les suivants. Sur les,
Oui. Mais je pense que là, c'était sur Liverpool. Je pense qu'ils voulaient surtout ne pas laisser Liverpool se rapprocher. Mais bon, enfin, franchement.
Et pour le coup, c'est Manchester City qui tire son épingle du jeu. Ce qui est assez rigolo, c'est que Manchester City joue avec 2 matchs de retard maintenant depuis plusieurs semaines. Mm. Donc, ils font pas de bruit. D'un point de vue comptable, si tu leur ajoutes 2 victoires, ça fait plusieurs journées qu'ils sont virtuellement premiers.
C'est plus qu'un match en retard, mais faut le dire, Manchester City, c'est quand même 15 matchs en défaite. Toutes compétitions sont fondues. Et sur ces 15 matchs, 11 victoires, dont les 6 dernières consécutives du côté de la Première Ligue. Mmh. Ils sont en train de remonter à toute vitesse.
Pour moi, c'est Manchester City.
On en a parlé il n'y a pas longtemps. Ouais. On était un peu tous d'accord pour que City et Liverpool soient les 2 favoris de cette Première Ligue. Hein.
Non, mais c'est sûr. Puis bon, la Liverpool, le problème, c'est qu'elle est encore trop dépendant des absences. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire au mercato. Je ne sais pas. Apparemment, c'était pas prévu de recruter forcément quelqu'un. C'est dommage. Mais bon, c'est sûr que là, Liverpool, moi, ça m'inquiète un petit peu parce que sur les 2-3 derniers matchs, je vois, c'est pas fameux du tout. Hein. Ils n'ont pas gagné en championnat depuis la victoire 7-0 contre Crystal Palace.
C'est pas le Liverpool qu'on a connu, qui a un jeu flamboyant, qui déroule. C'est un Liverpool plus crispé, qui est plus en demi-teinte. C'est vrai qu'on peut s'inquiéter peut-être de pas les voir aujourd'hui à la hauteur des attentes et de l'effectif qu'ils ont.
Je vais voler un peu la transition de Melvin qui fait ça tellement bien, mais c'est vrai que dans ces chocs au sommet, et on va venir à celui qui est plus au sud, je pense qu'on allait, et moi j'ai vu ces 2 chocs comme vraiment des signaux à savoir qui allait pouvoir remporter ces championnats. Et Manchester United, en fait, pour moi, est juste venu en fait valider les différents échanges qu'on a eus dans les dernières émissions, à savoir que c'était bien trop limité pour pouvoir espérer de terminer premier de cette Première Ligue et d'être champion. Et à l'inverse, plus au sud, et je pense que tu vas y venir, tu vas nous annoncer la suite, Melvin, mais là encore, ça a été riche en enseignements dans la course à la première place de la Serie A.
Et oui, justement, hein, puisqu'on bascule sur notre autre choc de ce week-end, hein, puisque l'Inter Milan, pour l'instant leader hein, de la Serie A, recevait la Juventus et ils se sont imposés 2-0, but d'Arturo Vidal et de Nicolò Barella. Mon Kevin, c'est franchement, j'ai regardé un petit peu, ça m'a inquiété.
J'avais dit, je vais commencer par ça, j'avais dit en début d'année 2021 que le mois de janvier serait le mois de la vérité pour cette Serie A et pour la Juve surtout, qu'on attendait justement, on espérait voir recoller à ses premières places. Je vais pas me prononcer toujours sur les chances de titre parce que j'ai dit que j'attendrai la fin du mois de janvier. Je vais attendre la fin du mois de janvier. Mais mine de rien, ce mois de janvier m'a déjà enseigné 2 choses, enfin, ou du moins a confirmé ce que je pensais parce que je vous avais très bien dit quand on avait fait la liste un petit peu des favoris pour le titre. On avait parlé notamment de Milan et de l'Inter. J'avais dit que Milan n'aurait pas les épaules et que l'Inter était pour autant le challenger le plus solide. Bah, quand on voit les 2 matchs que la Juve a fait contre ces 2 équipes-là, on voit que ça se confirme parce que Milan et l'Inter, je vous le confirme, ce n'est pas du tout le même niveau. Du moins, le Milan tel que je le vois maintenant. Mais ça confirme sur le fait qu'ils sont encore un petit peu trop dans l'irrégularité, c'est peut-être un petit peu trop tôt, alors que l'Inter, l'année dernière, avait déjà fait une belle saison. Donc, Déjà, ça, c'est la première chose. Sur le match d'hier, j'ai envie de vous dire, sans vraiment mauvaise foi, que ce match, on le perd avant de l'avoir joué. Parce que, pour moi, c'était impossible de gagner quand tu utilises un système en 4-4-2, comme Pirlo le fait, face à un système en 3-5-2. Je ne sais pas s'il y a des tacticiens qui nous écoutent, mais j'aimerais bien savoir ce qu'ils en pensent. Mais pour moi, je ne vois pas comment, moi qui, enfin même toi, Melvin, qui a été coach aussi, quand tu joues face à une équipe comme ça où tu sais qu'elle va défendre, comment tu peux, enfin elle va défendre et surtout comment, face à cette densité au milieu de terrain, comment tu peux mettre seulement un 4-4-2 avec deux milieux axiaux. C'est pas possible. Alors moi, j'ai expliqué que soit tu as deux milieux axiaux, c'est des tueurs, c'est-à-dire qu'ils récupèrent, ils donnent, ils ont une activité de ouf. Et à ce moment-là, tu peux peut-être essayer de compenser, mais ce n'est pas le cas de la Juve. Elle n'a pas des milieux de terrain pourris, la Juve, mais elle n'a pas des milieux de terrain qui sont faits pour jouer à deux. Et le 4-4-2, c'est pour ça qu'il disparaît progressivement du football. C'est parce qu'on se retrouve avec des milieux de terrain, des associations qui sont plus complémentaires qu'autre chose. Les Makelele, Vieira et les Gattuso, Pirlo, ça n'existe plus. C'est cette complémentarité où tu pouvais jouer qu'à deux milieux de terrain. Donc là, pour moi, déjà, le match est perdu, ne serait-ce qu'en termes de système. Et en plus de ça, pendant tout le match, Pirlo fait les mauvais choix. C'est-à-dire que comment tu peux sortir d'une première mi-temps comme ça, où tu existes à peu près 10 minutes. Bon, il y a ce but refusé de Ronaldo qui est juste, hein, il est justement refusable. Mais bon, c'est sûr que si tu le mets, bah, peut-être que ça change quelque chose. Mais moi, je pense quand même que derrière, dès que l'Inter a eu le ballon, ça a été vraiment beaucoup, beaucoup plus compliqué. Donc déjà, déjà là-dessus, ça ne va pas. Après, comme je l'ai dit, moi, je ne ferai pas de... Je ne vais pas parler des absents. Je ne vais pas parler des absents, il y en a eu beaucoup à la Juve. L'Inter a joué avec quasiment son effectif complet, sauf Danilo D'Ambrosio, qui était absent. Mais je ne vais pas parler d'absents parce que j'estime que c'est des réactions de perdants. C'est-à-dire, oui, on a perdu parce que tu comprends, on avait un tel qui était absent, c'était important. Je trouve que c'est pas rendre service à l'équipe que de justifier des défaites par des absences. Surtout que l'effectif de la Juve devait permettre quand même de faire beaucoup mieux d'un point de vue contenu. Le résultat, c'est autre chose. Mais d'un point de vue contenu, on devait faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Donc voilà, ça c'est des excuses que je vais réfuter, tout comme les excuses de calendrier. Oui, mais nous on a joué dans la semaine et eux non. Alors que là c'est pas le cas, mais peut-être Pierre en parlera par rapport au faible contenu du PSG face à qui ? Angers ? Amiens ? Je sais plus.
Commence par la Juventus,
bref,
on y viendra.
Mais en tout cas, sur ces types de. Sur les excuses de calendrier, pareil, pour moi, ça n'a rien à faire là.
Mais est-ce que c'est pas la défaite de Pirlo aujourd'hui ?
Défaite de Pirlo, mais complètement, parce que Conte est un entraîneur expérimenté, Pirlo l'est moins, pas du tout. Et Pirlo peut-être est victime de son inexpérience. C'est-à-dire que peut-être que quand tu sors, c'est quand même un peu comme tu sors de l'école. Quand tu sors de l'école, tu penses avoir des certitudes, tu penses connaître ton métier que tu viens d'apprendre en théorie à l'école, etc. Et en fait, la réalité du terrain est toujours tout autre. Et tu dois renoncer et apprendre que les choses que tu as apprises, bah, il va falloir les adapter et surtout, souvent, les remettre en question au début. Le problème, c'est que Pirlo, le dicton de Nelson Mandela qui dit quand on perd, on apprend, Pirlo, il apprend pas pour le moment parce qu'il reconduit sans cesse son 4-4-2 avec en plus de ça, en plus d'avoir de mettre 4 milieux de terrain avec notamment que 2 milieux de terrain dans l'axe, mais en plus Ramsey, ailier gauche, quand tu as sur le côté quelqu'un comme Achraf Hakimi, c'est quand même compliqué, surtout derrière que tu joues avec Fabrota, que j'ai rien contre lui, mais il n'a pas le niveau encore pour ce genre de rencontre. Donc Hakimi, de toute façon, tous les buts sont venus du côté droit de l'Inter et du côté gauche de la Juve, c'est pas pour rien. Donc derrière, pour moi, c'est sûr que c'est la défaite de Pirlo. En plus de ça, il fait n'importe quoi en deuxième mi-temps. Moi, je vous l'ai dit hier par texto, je le dis aux ceux qui nous écoutent, aux auditeurs, moi, mon débrief de ce match-là, je l'ai terminé à la 60e minute, quand j'ai compris qu'on marquerait jamais et que de toute façon, on n'allait jamais revenir dans ce match parce que Pirlo fait n'importe quoi. Pirlo prend le deuxième but et derrière fait ses trois changements en même temps. Et en plus, il fait des trois changements avec quasiment que du poste pour poste. Hein, il sort Rabiot, il fait rentrer McKennie. Il sort Ramsey, il fait rentrer Kulusevski. Il sort qui ? Fabrota,
il fait rentrer Bernardeschi.
Voilà. Bon, bah, c'est pas du poste pour poste, mais Bernardeschi est rentré arrière gauche. Hein, il est pas rentré milieu. Donc déjà, à partir de là, c'est plus possible. À partir du moment où tu vois pas que ton système ne fonctionne pas et que tu le reconduis jusqu'à la fin du match, mais c'est un véritable supplice, quoi. Enfin, bref, je sais pas ce que vous en pensez.
Ce qui est sûr, c'est que la bataille technique, comme tu l'as dit dès le départ, et je pense que c'était flagrant à la mi-temps, on était tous à dire que là, il fallait tout changer en termes d'animation offensive, défensive, que la Juve était en train de se faire bouffer et qu'il fallait qu'elle réagisse. Ce qui est certain, c'est que les changements sont tardifs et comme tu dis, le système ne bouge pas. Donc, il y a un moment, la remise en question, elle est pas bonne. Il y a un moment, il faut savoir prendre des risques. Et quand tu perds 1-0 en plus contre l'Inter et de cette manière-là, autant il y a des entraîneurs qui, parfois, au niveau comptable, sont en train de perdre. Mais tu sens que leur équipe a le dessus ou alors qu'elle fait jeu égal, comme ça a pu l'être contre Metz et par exemple Lyon. À la rigueur, je comprends que là, le joueur et que l'entraîneur temporise en se disant que son effectif a les moyens de réagir. Sauf que là, ce n'était pas le cas. Après, là aussi où je m'interroge, Kevin, c'est quand je regarde le banc de la Juventus. Aujourd'hui, je trouve ça quand même très faible. Mis à part le 11 qu'il y a sur le terrain.
Mais tu as 4 absents, Pierre. Quand tu as 4 absents, ton banc n'est pas le même, forcément, parce que les remplaçants habituels jouent, du coup. Donc, forcément.
Je suis d'accord. Et moi, la question que je me pose quand même hier, c'est quelle solution. Et je fais l'avocat de Pirlo.
Ouais.
Vas-y, demain, tu es à la place de Pirlo. Qu'est-ce que tu fais?
Vous êtes tous les deux à la place de Pirlo. Est-ce que vous laissez Arthur sur le banc tout le match?
Non.
C'était une de mes premières questions.
Le gros problème qu'il y a, c'est, je pense, c'est une question d'adaptation. Quand au bout de 20 minutes, il prend le bouillon comme ça et qu'il perd déjà 1-0, déjà, il doit sentir le fait qu'il doit se réorganiser sur un 4-5-1 ou un 3-5-2 pour pouvoir contrer justement les couloirs où il y avait Barella et Vidal qui se baladaient. Je pense que son problème, il a été là. Ça a été de ne pas mettre la bonne tactique en place dès le début et de ne pas avoir réagi assez vite. Parce qu'à la 58e, faire 3 changements, comme tu l'as dit, il est plié le match à 2-0.
Mais oui, mais il est plié. En plus, tu ne fais pas les bons. Mais encore, tu fais trois changements. Mais déjà, qui fait 3 changements d'un coup aujourd'hui? C'est quand même un aveu aussi de faiblesse, quelque part, de faire tes 3 changements d'un coup, tout de suite après le deuxième but. Pourquoi tu les fais pas soit à la mi-temps, soit tu les fais au compte-goutte après? Mais il fallait déjà changer quelque chose à la mi-temps. Moi, je comprends pas pourquoi. Je comprends pourquoi on a perdu, mais je comprends pas pourquoi Pirlo ne percute pas, parce que c'est quelqu'un d'intelligent en plus, c'est pas un con, tu vois, je veux dire, c'est pas Domenech, c'est pas Guardiola, ou même si Guardiola je l'aime bien, mais il y a des entraîneurs, de toute façon tu les feras jamais changer d'avis parce qu'ils sont butés sur leurs idées à la con, et même s'ils se sont complètement plantés sur un match, ils vont finir le match avec leurs idées. Alors, je trouve ça dommage que Pirlo, surtout après, avec son inexpérience, le fasse comme ça. C'est pas comme s'il avait gagné toute sa carrière en ayant joué en 4-4-2 avec un palmarès long comme le bras, où t'es obnubilé par ce que tu as fait avant et que t'arrives pas à avoir un regard objectif sur ce que tu fais. Il a rien fait encore, Pirlo. Donc il est censé se remettre en question.
Ouais, mais tu vois, Kevin, après, c'est ma vision des choses. Je dis pas pour autant que c'est la vérité, mais quand je regarde le match et le 11 de départ des deux équipes, mais tu me dis que tu veux pas parler des absents. On peut en parler, moi, ça me dérange pas. Même en comptant les absents aujourd'hui, qu'il y a les absents de marque qu'il peut y avoir à la Juventus. Quand tu regardes l'effectif aujourd'hui de la Juventus, moi, sincèrement, il ne me fait pas rêver. Je me dis pas à aucun moment, quand je regarde aujourd'hui l'effectif de l'Inter par rapport à l'effectif de la Juventus, je vois pas comment, même avec le meilleur entraîneur du monde et avec un effectif qui est présent sans blessure, je vois pas comment cette Juventus-là aujourd'hui peut prétendre, face à des effectifs comme à l'Inter aujourd'hui, remporter la Serie A. Cristiano Ronaldo, il a été surutilisé déjà l'année dernière. On lui demande encore de continuer à faire des miracles. Morata, c'est une ancienne doublure que la Juventus tente de relancer, mais ça n'a jamais été un joueur de niveau top mondial. Et pour moi, il n'a pas sa place vraiment dans une équipe de la Juventus à son top niveau. Derrière, tu as Chiellini, Bonucci, il joue depuis que je suis né, j'ai 28 ans. Non, mais il y a un moment où tu vois, non, mais tu te dis,
mais
faut
non,
que
mais
les choses,
Pierre,
elles
tu ne regardes pas l'effectif du bon côté.
Bah,
je suis désolé.
Peut-être.
Je suis désolé. Ils ont Chesney, on n'en parle pas beaucoup, mais qui est un très bon gardien. Et s'il y a bien une personne à qui on ne peut rien reprocher depuis 2-3 ans, c'est bien lui. Derrière, ils ont De Ligt, qui est un des meilleurs défenseurs d'Europe et qui, en tout cas, à son âge, il y a très peu de défenseurs qui ont son niveau. Il est peut-être dans les top 10 des meilleurs défenseurs centraux à l'heure actuelle. Bonucci, ça reste une valeur sûre aussi. Derrière,
ils courent pas, les gars, ils ont plus de jambes. Quand tu les vois,
mais c'est
moi,
pas
hier,
qu'ils ont plus de jambes.
Hier,
c'est
je les voyais couper. Qui plus est, avec des joueurs comme Hakimi, Lukaku, Martinez en face.
Mais c'est le système qui n'est pas bon.
J'avais l'impression qu'ils jouaient sur une jambe.
C'est le système qui n'est pas bon. À partir du moment où ton système est biaisé face à une équipe qui a le système qu'il faut, ouais, pour, mais... que, contre des équipes qui jouent en 4-4-2, avec cette densité au milieu de terrain, tu ne peux pas, quand tu n'as pas le contrôle du milieu de terrain, avec tes milieux de terrain, pour contrer cette densité, parce qu'ils jouent à 3 milieux de terrain, et en plus, comme tu l'as dit, Pierre, t'as raison, ils ont 3 milieux de terrain de très bonne qualité, l'Inter de Milan. Donc si t'as pas, en plus de ça, en face, un milieu de terrain aussi à 3, avec 3 bons joueurs, tu ne peux pas prendre le contrôle de ce match, et tu peux pas être dangereux.
Kevin, si on parle du PSG, le PSG, on va y revenir tout à l'heure, le PSG, ça fait des mois, voire des années, qu'ils jouent sans avoir de forme de jeu, sans tactique, sans rien. Ça fait des mois depuis le départ de Mota, donc ça fait des années, que le Paris Saint-Germain joue sans milieu de terrain.
Oui.
Mais derrière, quand tu as des vrais défenseurs de niveau top mondial, comme peuvent l'être aujourd'hui, comme l'est Marquinhos, qui pour moi aujourd'hui est en train de s'élever au niveau de Ramos, Kimpembe, tient. À Leipzig, on s'est fait mais violer, c'était pire que contre la remontada, mais on n'a pas craqué. À Manchester United, on gagne grâce à notre défenseur central
problème,
et grâce à notre gardien.
Le problème, Pierre, c'est que tu joues avec Chiellini qui a 38 ans, qui a fait 4 matchs cette saison parce que De Ligt, il est blessé, donc tu peux pas avoir le même rendement défensif.
Ouais.
Bah oui. Et en plus, derrière ça, le Cuadrado, qui est le meilleur latéral droit de la Juve cette saison, pareil, covidé. Derrière, bah, d'habitude, Danilo joue à gauche ou alors joue dans la défense à 3 avec De Ligt et Bonucci. D'ailleurs, c'est avec cette défense à 3 qu'on a plié Barcelone au match retour de Ligue des Champions. Donc, forcément, après, j'avais pas envie de parler des absents parce que pour moi, c'était pas une question forcément que d'absents et surtout d'absents. C'est une question de système qui n'est pas bon. Si on avait joué avec le bon système pour jouer contre l'Inter de Milan, on aurait gagné. On aurait peut-être pas gagné, mais on aurait fait beaucoup mieux. Donc là, ce qui me dérange, c'est que non seulement on n'a pas gagné, et c'est pas grave de pas gagner, mais parce que tu peux ne pas gagner, mais avoir joué crânement ta chance. Milan, quand ils perdent contre la Juve, ils ont pas un mauvais match. Ils font un match correct, ils sont fidèles à leurs idées. Bon, ils perdent parce qu'ils sont moins forts, mais pas parce qu'ils ont fait un mauvais match. Nous, non seulement on a été moins forts, mais en plus on a été nuls.
Dans des moments comme ça, tu regrettes pas le départ de Matuidi, par exemple?
Peut-être, mais.
Quand tu vois son rendement, la force, l'impact qu'il amenait dans cet effectif.
Mais bien sûr.
Bon, aujourd'hui, Rabiot qui maintenant a cette capacité de se projeter vers l'avant, je trouve qu'il a tendance maintenant à déserter un peu.
Je vais pas pleurer tous les lundis quand je viens ici parce que Pjanic est parti, parce que Matuidi est parti, parce que machin. Je suis content des milieux de terrain qu'on a en plus parce que le petit McKennie, pour moi, il doit démarrer le match déjà parce qu'il est très très bon depuis le début de la saison. Derrière, Rabiot, je suis désolé, en équipe de France, au PSG ou à la Juve, dans un milieu à deux milieux de terrain, c'est impossible pour lui d'être bon. Il n'est pas fait pour être dans un milieu de terrain.
Ouais, je suis d'accord. Sur ce point-là, je suis d'accord.
Et justement, messieurs, pour clôturer ce sujet, est-ce que vous pensez réellement que ce match va être décisif pour la fin de la Serie A?
Ça va dépendre des deux prochains matchs pour la Juve. Est-ce que ce match va avoir un réel impact psychologique?
Tu penses vraiment que la Juve a le destin entre ses mains?
Non.
C'est
une excellente question parce que c'est les termes exacts que j'allais utiliser. Pour moi, pour que la Juventus soit maître de son destin, elle devait absolument, absolument gagner à Sassuolo, gagner contre Milan et gagner contre l'Inter. Il fallait gagner ces trois matchs pour qu'elle ait son destin entre les mains.
Elle a encore le moyen de reprendre les choses. Je suis désolé, on n'est pas à 10 journées de la fin.
Elle a le temps.
Elle s'est mis en difficulté.
Mais pour moi,
je vais vous dire ce qu'il y a un match qui va jouer, qui va être le match contre Naples. C'est sûr que si tu ne gagnes pas contre Naples, c'est plié parce que tu prendras trop de retard. La seule carte qui te reste à jouer, c'est ce match en retard. C'est ce seul peut-être petit espoir qui, moi, aujourd'hui, me dit, quand je me lève le matin, je me dis, bon, allez, on est à la rue. Mais si tu gagnes ce match-là, tu reviens à 7 points, à 4 points, tu te dis... Allez, pourquoi pas, peut-être que ça peut te servir à te lancer.
Et c'est quand le match contre Naples?
En février, ils ont pas encore calé la date. Le problème, c'est qu'il y a déjà le match retour qui est programmé, mais le match aller, le retard, il n'est pas calé encore.
Allez, messieurs, on va clôturer cette...
Attends, je voulais juste dire un truc, micro-truc. Le seul truc, hier, je me suis couché quand même, j'étais triste, mais je me suis quand même, pour me rassurer, je me suis dit un truc. Je me suis dit, bon, j'ai pensé à l'Euro 2021 quand même. Et je me suis dit, on va quand même avoir un sacré milieu de terrain avec la Squadra parce que Barella hier a été...
Quel joueur,
je l'avais déjà dit la dernière fois, mais quel joueur.
Ouais,
c'est pour moi, d'ailleurs, Pierre, toi qui souvent t'extasies sur Verratti, je peux t'assurer que si tu passes autant de temps à garder Barella que Verratti, je t'assure que Verratti, tu vas vite l'oublier, tu seras prêt à l'échanger contre Barella au prochain Mercato parce qu'il est vraiment meilleur, vraiment. Barella, Jorginho.
Pour moi, c'est pas le même registre.
Barella, Jorginho, Verratti, Locatelli.
Verratti, il est meilleur en termes de conservation du ballon que Barella.
Mais le problème, c'est que Barella fait exactement ce qu'on attend de lui à ce poste-là du milieu de terrain. C'est-à-dire
mais tu ne peux pas comparer Verratti et Barella.
Bah si. Verratti, c'est pas un 6. Donc Verratti, il joue au même poste que Barella, c'est-à-dire dans un milieu à 3 à droite. D'accord ? Ou à gauche, peu importe. En tout cas, Barella a cette faculté de s'incruster dans les espaces pour justement être dans les 30 derniers mètres le plus utile possible. Chose que Verratti n'arrive pas à faire.
C'est chose qu'on n'a jamais demandé à Verratti de faire. Pochettino, depuis 3 matchs, le fait faire sur chacun de ses matchs.
Oui.
On verra de toute façon avec les échéances européennes.
Bon, en tout cas, les deux vont être alignés ensemble à l'Euro. Ça va être magnifique. Voilà.
S'ils arrivent à avoir des automatismes.
Vous êtes dans le RKS pour Time Show sur RKS 97 FM. Allez, on va ouvrir notre page Ligue 1, on va donner quelques résultats et puis parler plus particulièrement du cas de Kylian Mbappé qui est en panne sèche depuis 455 minutes à peu près, c'est assez énorme, c'est ça les chiffres, hein, je crois.
Ouais, c'est ça. Bon, il suffit de voir, on n'est pas les seuls animateurs radio à s'exprimer sur le cas Mbappé, bien sûr, parce que ça fait grand débat. Mbappé est encore extrêmement jeune, hein, il a encore tout l'avenir devant lui, donc c'est vrai qu'on est extrêmement exigeant avec ce joueur de 22 ans, mais qui a placé la barre tellement haute. Moi j'ai cette chance d'avoir cette chance et cette malchance parce que c'est un crève-cœur de le voir évoluer au quotidien sur ces derniers matchs. J'ai vu l'ensemble de ses prestations et je peux vous dire que c'est extrêmement triste. Larquet s'est exprimé d'ailleurs au sujet de Mbappé récemment et j'ai beaucoup aimé la prise de parole de Larquet. Il y en a beaucoup d'autres avant lui qui l'ont fait. Rio
pour une fois, il
n'a
pas dit que des bêtises.
Ménès s'est exprimé. Pour le coup, Larquet a été très fin dans son analyse. Il a vu un joueur qui est en souffrance psychologique, qui s'en remet systématiquement à ses passements de jambes avant chaque chose. C'est-à-dire que Mbappé doit faire une passe à un mec qui est à 5 mètres de lui, il va faire un passement de jambes.
Mais ça, tout le monde en parle depuis quand même certain temps. Hein. Oui. Il n'a pas fait l'attendre Jean-Michel Larquet pour t'en apercevoir.
Mbappé, il fait toujours les mauvais choix. Il tente systématiquement de fixer sur le côté gauche. Il rentre dans la surface, il fait un passement de jambes et il essaye de passer la balle entre les jambes du défenseur le plus proche de la ligne de corner. Il fait à chaque fois systématiquement le même move. Il est toujours en train d'essayer de faire des gestes techniques qu'il ne maîtrise pas. Il ne sait plus faire une passe sans faire de talonnade, c'est ce que dit Larquet. Mais c'est frappant, hein. Il faut regarder les statistiques qu'il a. Quasiment la moitié des ballons qu'il touche, il les perd. Il fait les mauvais choix, il joue toujours en arrière, aucune prise de vitesse. Systématiquement maintenant, quand il part au but, il se fait rattraper. En fait, on a l'impression qu'il est à court d'idées et que en fait, la pression aujourd'hui qu'il avait suggérée jusqu'à maintenant est atteinte de l'écraser. Le dernier match, si les auditeurs ne l'ont pas vu, le match qu'il fait contre Angers, c'est assez historique parce que ça arrive très peu souvent. Pochettino demande à son adjoint dans l'oreillette de sortir Mbappé. Mbappé sort à la 75e minute. Alors, il nous a pas fait une tourelle en faisant la gueule et en tapant dans une bouteille d'eau, mais son visage en disait long. Il a une tête dépitée. On sent que même lui, aujourd'hui, il est en train de se mettre en question. Alors après, il y a différents avis de professionnels. Il y a Habib de Canal+ qui
dit qu'il faut... Ah oui, Habib Bey. Alors ça, pour moi, c'était lunaire, ce que j'ai entendu.
Ouais, alors il dit qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, mais il dit qu'il faut continuer à le laisser manger son pain noir et à le faire jouer.
Non.
Et que forcément, à un moment, il va rebondir. Là, clairement, je ne suis pas d'accord avec Habib Bey. Pourtant, parfois, il a des prises de position qui sont intéressantes.
À moitié d'accord.
Pour moi, aujourd'hui, il a besoin d'un électrochoc. J'espère que Ali, et apparemment, c'est en très bonne voie, parce qu'aujourd'hui, on ne fera pas de page mercato, donc je le glisse là. Ali va normalement venir au Paris Saint-Germain. Il fait le forcing, il n'était pas dans le groupe sur le dernier match. Si Ali vient, j'espère que Pochettino aura les coronets. Et je sais que ça peut être à double tranchant par rapport à la prolongation de transfert de Mbappé. À la prolongation de contrat de Mbappé. Mais si Ali arrive, j'aimerais qu'il soit mis en concurrence directe et que Mbappé recommence à cirer un peu le banc. Il faut le faire avec pédagogie, lui expliquer que c'est aussi dans son intérêt et dans l'intérêt de l'équipe. Mais aujourd'hui, de le voir végéter sur un terrain pendant 90 minutes, c'est extrêmement douloureux pour moi de le voir jouer comme ça, parce que je me dis que le monde entier le voit à ce niveau-là et qu'en fait, si c'est pour jouer à ce niveau-là, repose-toi. C'est justifiable, c'est justifié. Il a donné l'année dernière, mais là, le niveau qu'il a à l'heure actuelle, c'est pas possible.
Je crois que c'est pas possible. Je crois qu'il faut penser aussi à quelque chose. Kylian Mbappé, il a joué le Final Four, il a été énormément utilisé, il a chopé le Covid, et depuis qu'il a chopé le Covid, c'est très, très, très compliqué pour lui. Moi, je suis pas inquiet parce que je pense qu'à l'âge où il a le droit. Il a le droit, Kylian Mbappé, d'avoir un passage à vide, il a le droit d'être fatigué, il a le droit d'être pas bon. Maintenant, il y a effectivement la réflexion de l'entraîneur à savoir qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on le laisse se reposer ? Est-ce que sa fatigue mentale est due à sa fatigue physique ? Ou est-ce que je dois le laisser dans le rythme de manière à ce qu'il reprenne confiance ? Ça, après, ça se discute et je pense que chaque entraîneur et chaque personne aura sa réponse.
Ouais, mais vous avez été entraîneur. Le football est un sport collectif. Il faut donc faire primer le collectif et les intérêts du club et les intérêts du collectif. Aujourd'hui, Kylian Mbappé, il est mauvais, il est en dessous du niveau de ses partenaires. La preuve, on s'en remet à Kurzawa pour aller mettre la reprise de volée au deuxième poteau. À ce moment-là, Mbappé, il est je sais pas où.
Il est plus sur le terrain.
Il est au Qatar, il est je sais pas où.
Le Paris Saint-Germain est mauvais, à l'image d'Mbappé. Oui, on n'a pas un Paris Saint-Germain non plus flamboyant. Bien sûr, Mbappé est en dessous de ce qu'on attend.
Oui, mais Mbappé touche beaucoup de ballons et tous les ballons qu'il touche, il les perd, il fait les mauvais choix.
Il bonifie pas.
Non, pire, bonifier pour moi, ça veut dire réussir à transformer quelque chose en positif. Lui, il arrive au contraire à perdre des ballons aujourd'hui.
Est-ce que c'est pas temps pour Mbappé ? Est-ce que c'est pas l'heure justement d'un départ pour qu'il vive autre chose et qu'il se remette en question ?
Mais je pense que les problèmes vont le suivre. Enfin,
ouais, les problèmes les suivront.
Ouais, je pense que les problèmes vont le suivre. Ça peut pas être qu'une question de club. Alors moi j'aime pas le PSG, mais il est pas dans un mauvais club. Il est pas dans des mauvaises dispositions. Il joue avec des très bons joueurs à côté de lui. Il jouera avec d'autres bons joueurs aussi dans d'autres clubs comme le Real par exemple. Mais pour moi, il doit se remettre en question, surtout s'il vise un départ. Parce que il peut pas partir avec les doutes aujourd'hui avec les doutes qu'il a. Moi, je suis en train de me poser une question. Je me demande, parce que j'ai toujours été très sceptique sur Mbappé, pas sur son talent, mais pour moi, il y avait toujours quelque chose qui me gênait, c'est ce joueur, parce que je sentais que on en a fait une étoile un peu trop vite, notamment parce qu'on disait que c'était un joueur qui parlait bien, qui arrivait à enchaîner trois phrases sans faire de faute, comme si c'était un exploit aujourd'hui. Moi, je suis en train de me demander si on n'est pas en train de voir le vrai visage de Kylian Mbappé depuis quelques temps. C'est parti, même avant que ses performances dégringolent, parce qu'avant, ce qui le sauvait, c'était qu'il pouvait se comporter très très mal. Par contre, il était toujours bon sur le terrain. Aujourd'hui, il se comporte pas mal, parce que de toute façon, il n'a pas intérêt, parce qu'à mon avis, vu ses performances, il n'a pas intérêt à l'ouvrir. Mais en plus de ça, moi, je ne sais pas, je me pose des questions. Et tu vois, il y a un monsieur que je déteste, mais qui est passé sur RMC pour parler de son livre la semaine dernière, c'est Philippe Tournon, qui était le responsable com de l'équipe de France depuis Michel Hidalgo jusqu'à Didier Deschamps. Il n'a juste pas couvert la période Domenech. Mais il parlait de pas mal de choses qui étaient très intéressantes sur les affaires de matchs truqués à l'OM, parce qu'il était à l'OM aussi avant. Il a toujours été dans les bons coups, celui-là. Il parle d'Mbappé et dit que le jour où Mbappé arrive en équipe de France, il reçoit il appelle ça un vademécum, lui, une charte en disant voilà comment Mbappé doit s'exprimer aujourd'hui face aux journalistes et face à la presse. Finalement, tout ce qu'on a pu penser d'Mbappé avant, surtout sur ce qui se passait en dehors du terrain, sa façon de s'exprimer, de dire les choses, etc., c'était faux. De toute façon, c'était pas la vérité, parce que quand on te dit tu dois dire ça comme ça, et surtout les journalistes, posez vos questions comme ça, dites les choses comme ça, sinon de toute façon c'est simple, ça sera terminé avec vous. À partir de là, tout ce qu'on pensait de Mbappé, notamment sa fabuleuse communication, est biaisé parce que c'est géré par un cabinet d'avocats extérieur, etc. Donc moi déjà ça me dérange, et ça confirme bien le scepticisme que j'avais, parce que ça pouvait pas être aussi beau. Il y a forcément un loup quelque part. Et voilà, aujourd'hui tout éclate parce que finalement on est tous responsables de ce que est devenu Mbappé, parce que trop peu de personnes ont osé le critiquer au départ et ont osé le remettre en question. On lui a tout donné tout de suite parce que effectivement il y a beaucoup de talent, mais moi je me dis que il faut qu'il se remette vite à l'endroit, qu'il remette le terrain au centre de tout, qu'il arrête ses coupes bleues, qu'il arrête ses passements de jambes et qu'il se remette à bosser sérieusement, parce que là ça va pas du tout. Ce qui est dommage, c'est qu'il évolue dans un championnat qui est tellement faible, où il est encore à 13 buts je crois, et ça c'est dommage parce que du coup ça biaise tout, parce que tout le monde, notamment en France, on est très nombreux, enfin ils sont très nombreux parce que je suis pas dedans, à ne privilégier que le résultat et les statistiques. Moi j'aimerais bien qu'on arrête de parler de statistiques et de résultats, qu'on arrête de dire oui mais il a quand même marqué 13 buts cette saison, mais je m'en fous parce que ça sera insuffisant. Cet été, pour être bon à l'Euro, et ça sera insuffisant en arrivant au Real. On a bien vu que d'ailleurs Eden Hazard se plante complètement. D'ailleurs Fred Hermel à RMC a dit Hazard a oublié qu'il était au Real Madrid en fait, et que c'était pas Chelsea, et que le degré d'exigence était plus haut. Il aura peut-être une longueur d'avance par rapport à Zidane, parce que Zidane va lui accorder du crédit. Mais s'il pense que parce qu'il signe et ce sera Zidane, et parce que ce sera Zidane, il aura tous les droits, il se trompe complètement, parce que c'est pas ça qui va le sauver. Il a besoin comme a dit Larquier, de dépolluer son football.
Mais en fait, c'est ça. C'est parce qu'on met trop. On parlait encore du final fort. Mais le Mbappé, aujourd'hui, son problème, c'est pas forcément un problème athlétique, physique. Quand t'arrives à tenir 90 minutes sans avoir de crampes, en faisant des courses à haute intensité, t'as pas de problème physique. Le problème, c'est que Mbappé, avant, ce qui était magique chez lui, c'est sa vitesse. Mais je parle pas seulement de sa vitesse de course. C'était, rappelez-vous, sa vitesse d'exécution, ses prises de décision. À peine il avait touché le ballon, qu'il savait déjà dans quel sens il allait courir, la manière dont il allait faire. Il avait une vitesse d'exécution dans sa manière de fixer, dans sa vitesse de prise de décision. Aujourd'hui, Mbappé, à chaque fois qu'il touche un ballon, il est à l'arrêt, il se tourne, il regarde ses coéquipiers, il réfléchit, il fait un passement de jambe, il se décale de 2 mètres, il réfléchit, il refait un passement de jambe, il se décale encore de 2 mètres, il réfléchit. Mais c'est incroyable. Moi, ça, vraiment, je pense qu'il est aujourd'hui dans un moment de doute, de détresse psychologique. Et aujourd'hui, Mbappé, ce qu'il a besoin, c'est d'être de nouveau en confiance. Mais pour moi, il faut qu'il y ait un électrochoc. Et cet électrochoc,
tout le monde n'arrête pas de dire qu'il est bien entouré.
Ça ne se fera pas par un départ, ça se fera par une remise sur le banc. Il faut qu'il se rappelle que Mbappé n'est pas un dieu vivant.
D'accord. Mais
Mbappé, c'est pas Pelé.
Tu sais, tout le monde n'arrête pas de dire, Melvin, d'ailleurs, j'aimerais que tu me dises ce que tu en penses. Tout le monde n'arrête pas de dire, oui, mais il est très, très bien entouré. Il est très bien conseillé. Ses parents le chouchoutent ou le protègent ou, je sais pas, gèrent ses affaires, j'en sais rien. Tout le monde n'arrête pas de dire ça. La preuve que non, aussi. Parce que si t'es bien entouré, bien entouré, ça veut pas forcément dire protégé, surprotégé, aseptiser quelqu'un à un discours. C'est pas ça, bien entouré. Bien entouré, c'est quelqu'un, oui, qui est protégé quand il faut être protégé, mais c'est aussi quelqu'un qu'on doit secouer quand il faut être secoué, et quand on doit lui dire, là, t'es pas bon, en fait. Là, t'es nul. Donc, si tu continues comme ça, en fait, c'est pas au Real que tu vas aller. C'est un Décat Turc dans 4 ans. Et l'ascension que tu as connue, tu vas connaître la dégringolade dans le même sens et aussi vite. Donc, ça sert absolument à rien. Aujourd'hui, heureusement qu'il a gagné la Coupe du Monde avec la France en 2018, parce que s'il avait pas ça.
Je crois qu'on sait pas ce qui se passe exactement en coulisses, mais je suis d'accord avec toi. S'il est bien entouré, on doit lui mettre la réalité en face des yeux et qu'il y ait une remise en question.
C'est trop long, là. C'est trop long.
Maintenant, il y a quelque chose qu'il faut se dire. C'est, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un jeune joueur. Oui, il n'est pas bon en ce moment, mais je pense qu'il a le droit. Tout grand joueur a connu des passages à vide. Peut-être qu'il a été surcoté. Peut-être qu'on en a trop fait de Kylian Mbappé. Maintenant, je pense qu'il a le droit d'avoir un passage à vide. Où on va connaître la vérité, si c'est un grand joueur, c'est si ce passage à vide va réussir à lui servir. C'est là où on va le voir. C'est après ce passage à vide.
Mais oui, mais c'est trop long, là, déjà. Mais
attendez, les gars, je vais vous poser une question simple. Et je pense
un passage à vide, c'est 3-4 matchs. C'est pas 4 mois.
Je vous interroge, vous, et j'interroge les auditeurs. Je vais laisser un petit blanc de 2-3 secondes juste pour qu'on se pose la question. Aujourd'hui, qui peut me dire dans quel secteur Mbappé a progressé sur ces, je dis juste sur ces 2 dernières années? Quand je parle de secteur de progression, c'est tir de loin,
aucun.
But de la tête, technique,
aucun.
Vitesse.
Non, mais il ne progresse pas, c'est
capacité
sûr.
Capacité physique. Dites-moi.
Aucun.
Mais personne.
Aucun.
Le secteur dans lequel Mbappé a progressé.
Non, mais oui. Mais
donc,
le Mbappé
progresse
de
pas,
Monaco, c'est le Mbappé du Paris Saint-Germain.
Exactement. Et encore, en moins bon.
Non,
parce
il est
qu'à
moins
l'époque,
bon.
il était meilleur athlète.
Le pire, c'est qu'il n'a même pas progressé. Il a régressé sur certaines choses parce que, comme l'a dit Pierre, il a rajouté des choses dans son football qu'il n'avait même pas besoin. Il a pris les mauvais exemples. Alors, est-ce que c'est la faute de Neymar? Je suis sûr que Neymar lui dit tu dois jouer comme ça. J'espère pas, parce que sinon, c'est grave. Mais je pense pas. Je pense que c'est lui qui s'est fait un idéal de joueur dans sa tête et qui s'est dit pour être aussi bon, j'ai besoin que Neymar, j'ai besoin de faire comme lui. Mais non, tu prends le mauvais exemple. Est-ce que tu as les mêmes capacités physiques et techniques que Neymar? Non, tu es un joueur différent. Il est plus proche pour moi de R9, Ronaldo, parce que Ronaldo, c'était pareil, c'était vitesse, c'était la capacité en un contre un, dans les 18-20 derniers mètres, d'éliminer. Et c'est là où il peut être bon, c'est quand il prend de la vitesse. Et oui, en un contre un, il peut faire la différence, mais pas quand il part de ses 30-40 derniers mètres et qu'il essaie de dribbler 45 joueurs pour pouvoir marquer.
Ronaldo avait eu d'ailleurs un trou quand il était arrivé à Manchester United sur sa deuxième saison, je crois.
Moi, je parle de R9. Ronaldo phénoménal, qui lui aussi a été très très vite, très fort. Je crois que de 17 à 22 ans, je crois que j'ai vu la stat. Il joue 140 matchs, il marque 134 buts. Et il joue au PSV, au Barça et à l'Inter. Donc, pas dans des petits clubs.
T'as vu le physique de R9? T'as vu ses cuisses, ses jambes. Ouais. Le problème, c'est qu'à côté, il est frêle, notre Mbappé. Tu vois, c'est ça. C'est le problème, c'est
pas la même puissance.
C'est pas la même puissance. Mais par contre, en termes de vitesse,
il va très vite.
Dans la gestuelle, il me fait penser quand même un peu plus à R9 qu'à Neymar, par exemple. C'est pas du tout le même
style
de joueur.
Ouais, il a pas la finesse. Il a pas la finesse. Il a pas la finesse de Ronaldo.
Mais c'est pas grave.
Le problème, c'est que on peut parler d'un joueur où
Bébéto. Me fait penser à Bébéto.
Je sais pas, j'ai pas vu jouer.
Il y a des joueurs pour lesquels on est critique. Non mais.
Il me fait penser à Tony Vérène. J'ai envie de vous dire.
Il y a des joueurs pour lesquels on peut avoir des degrés d'inquiétude différents, mais un joueur qui est en manque d'efficacité, on en a connu, on le sait, on peut avoir une inquiétude,
mais elle est temporaire.
Il va chercher les plus profonds. Tu peux arrêter de nous faire le cimetière, s'il te plaît, du Panthéon du football.
Excusez-moi.
Non, mais le problème d'Mbappé, c'est cette régression. Ça veut dire qu'on ne parle pas d'un manque d'efficacité. C'est pas genre il a 4-5 face-à-face dans un match et il les loupe tous. Là, Mbappé n'a pas frappé. Mbappé ne frappe plus. Sur ces derniers matchs, Mbappé ne frappe plus. Il y a une action contre Angers, il est seul à 25 mètres, plein axe. Tu te dis, frappe, frappe. Et il frappe pas. Il fait un passement de jambe et il la décale mal sur la droite, interception, contre-attaque. Mais frappe, putain, frappe. Tu te dis, mais qu'est-ce que ce mec il a là?
Ouais.
T'as l'impression qu'il bug.
Messieurs, on va voir, on va laisser le temps à Mbappé de peut-être se refaire, laisser le temps. Il y en a peu encore, comme tu le disais, Kevin.
Bah, le Barça arrive rapidement. Hein.
Mais voilà, le Barça arrive très rapidement. On va rappeler quand même les scores de cette 20e journée. Monaco qui s'est imposé en préambule 3-2 à Montpellier. Nîmes qui s'est imposé à Marseille catastrophique. On pourra en reparler. C'est pitoyable. Mm-hmm. Le PSG qui s'est imposé.
C'est un problème de budget, on l'a dit.
Face à Angers.
D'ailleurs, t'as vu ce que Ménès a dit par rapport à Marseille?
Non.
Il a dit parce que bon, Villas-Boas a fait le buzz en disant que Marseille ne gagnait plus depuis que Paris avait racheté la Ligue 1. Et Ménès a dit peut-on poser la question à Villas-Boas à savoir ce qu'il pense du budget de Nîmes et de Reims?
Ouais.
Tout à fait, c'est une très bonne question.
Mais oui.
Rennes qui s'impose 2-1 du côté du stade brestois, Lens et Nantes qui se neutralisent un partout, Bordeaux qui a fait la bonne opération, gagnant 3-0 du côté de
Bordeaux,
Nîmes.
Ça va mieux.
Ouais. Le travail de Gassé
commence à payer.
Strasbourg qui gagne 1-0 face à Saint-Etienne, catastrophique. Lille qui gagne 2-1 dans les dernières minutes face à Reims, c'est la très bonne opération. Et hier, même si mon équipe a perdu face à Metz, excusez-moi monsieur, messieurs, j'ai trouvé, pour finir sur ce sujet, qu'on a quand même assisté à un beau match de Ligue 1.
Ouais, très très beau match.
Franchement, c'était plaisant à voir jouer. Il y en avait de partout, il y a eu 4 barres transversales, c'était vraiment un match assez offensif.
C'est dommage que ce match-là n'était pas à 14h pour qu'il soit diffusé en Chine ou un peu partout, parce qu'à chaque fois qu'on fait une diffusion en clair à l'étranger, on monte des matchs catastrophiques. Mmh. Celui-là, il était allaitant, et puis tu avais deux bonnes équipes. Metz a fait aussi un très bon match. Metz ne vole pas sa victoire.
Après, Metz est 9e quand même. Metz est 9e, joue quand même bien dans ce championnat-là. Donc c'est bien. Moi, j'ai toujours dit que pour la L1 Progress, il fallait que ça vienne aussi de ces clubs-là, des clubs comme Metz, qui, au lieu de mettre des bus et de ne pas jouer, ou de jouer physique, de mettre des coups, etc., dans des gros matchs, doivent jouer. Et la preuve que ça marche. Donc j'espère que ça inspirera plein d'autres équipes.
Et il y avait quand même une petite info aussi, c'était l'entrée de Slimani. Sa première entrée en fin de match, il a été extrêmement altruiste, mais par deux reprises il se retrouve face au but et il décale, malheureusement ça paye pas, mais il a fait une entrée intéressante pour ceux qui le suivent maintenant depuis quelques années, depuis Monaco notamment.
Allez messieurs, on est sur RKS, on se retrouve dans un instant. Allez, il est temps d'ouvrir notre page Ligue 2, messieurs. Avant d'accueillir Laurent David, j'aimerais que vous me fassiez sur votre retour sur cette période du GF 38 qui est dans la difficulté, même s'ils ont affronté les 6 premiers. Ils ont encore été défaits du côté de Toulouse, 2-0, face à une équipe de Toulouse qui est pour moi monstrueuse et qui va tout droit vers la Ligue 1.
Oui, bah ils ont bien bossé ces dernières semaines. L'équipe de Toulouse fait un très bon retour et moi de toute façon je suis pas surpris par le résultat parce que j'en attendais pas grand chose. On a eu la réalité du niveau de Grenoble qui n'est pas un mauvais niveau mais qui est un niveau insuffisant encore par rapport aux équipes qu'elle a rencontrées dernièrement, Troyes, Clermont, Toulouse, etc. Donc la seule malchance que Grenoble a eu, c'est ce fameux calendrier parce qu'il se retrouvait à enchaîner ces matchs-là un petit peu tous à la suite. C'est des matchs compliqués, c'est des matchs qui vont être qui étaient exigeants aussi. Et c'est ça qui est dommage. C'est plus le fait que ces matchs-là se soient retrouvés tous à la même période. Pense que si ces matchs-là avaient été plus étalés au milieu de matchs plus abordables, plus faciles, Grenoble aurait pu faire un peu plus tourner. Et puis à la limite, sur un match comme ça, au milieu de un match difficile au milieu de matchs faciles, tout est possible. Alors que là, enchaîné, on l'avait dit, hein, ça allait être compliqué. Mais...
C'était à double tranchant. Ils ont joué le deuxième, le troisième et le quatrième en trois semaines.
C'est dommage.
On va pouvoir en parler avec un ancien joueur du GF38, puisque nous avons aujourd'hui l'honneur d'avoir Laurent David avec
quel
nous.
Quel honneur.
Salut Laurent, comment vas-tu ?
Bonjour Malvin, bonjour à tous.
Bonjour Laurent.
Bon, comment tu vas ?
Ben écoute, ça va plutôt pas mal. Ça va.
Ton actualité, on la rappelle, hein, tu es l'entraîneur de l'équipe réserve du Stade Brestois.
Ouais. Oui.
Hein, et puis on l'a dit hors antenne, c'est vrai que c'est ton actualité depuis un moment, hein, tu avais les U17 du côté du Stade Brestois, tu as depuis 6 ans je crois la réserve.
Un peu plus même maintenant.
C'est un peu ton club de cœur Brest, hein, parce que tu as fait quand même pas mal de tes gammes.
Bah, j'ai fait déjà toute ma formation effectivement quand j'étais tout jeune, mais avec le dépôt de bilan en 91 j'ai dû m'exiler.
Ouais.
Et signé pro ailleurs, mais oui, en fin de carrière, j'y suis revenu pour la remontée en Ligue 2, et puis le temps de passer quelques diplômes, je suis revenu au sein du club pour m'occuper des U17, et puis depuis 7 ans aujourd'hui, la réserve professionnelle.
Comment ça se passe ? Parce que tu m'expliquais justement que c'était assez difficile en ce moment à s'occuper d'une équipe réserve justement, et d'autant plus d'une réserve de Ligue 1 par rapport à toutes les contraintes sanitaires.
Ouais, bah effectivement, oui, on en avait parlé, c'est vrai. Et c'est très compliqué. On a encore une réunion tout à l'heure justement avec le docteur du centre de formation parce que on a encore malheureusement un ou deux petits cas qui traînent chez les U17. Et puis, tu sais ce que c'est. Un cas Covid entraîne des cas contacts et des cas contacts. Donc, encore une fois, on a peur de devoir fermer le centre. Alors c'est dommageable bien évidemment pour tous ces jeunes, mais c'est aussi dommageable financièrement puisque ça coûte extrêmement cher au club de renvoyer tous les petits chez eux. Donc, mais il faut s'y faire. Et c'est vrai qu'on passe plus de temps cette saison à s'occuper de la Covid-19 plutôt que de notre propre secteur foot.
Alors justement, on n'a pas connu ça à ton époque de joueur. On va te souhaiter un joyeux anniversaire, hein, puisque Laurent David a eu 50 ans il y a quelques jours. Donc
bon anniversaire. Laurent David, il a 50 ans. Moi, aujourd'hui, j'ai 8 ans. Quand j'ai été voir Grenoble la première fois, je devais avoir 8 ans. Il y avait Laurent David sur le terrain. Et quand Melvin m'a annoncé que Laurent David allait prochainement venir dans l'émission, j'étais vraiment content parce que ça me ramène à mes... Bon, je suis pas vieux, hein, mais ça me ramène à ma jeunesse où je commençais à découvrir tout juste le football. Je l'ai découvert avec la Juve, mais je l'ai découvert notamment avec le club de ma ville qui est Grenoble et avec ce stade de Lesdiguières. C'était des très très bons souvenirs.
Laurent, t'as quand même joué 103 matchs avec le GF.
Et puis c'était la star, quoi, Laurent voilà, David. Moi je me souviens,
le jeu,
on parlait que
de
lui dans le stade.
Numéro 10.
Non.
On en a parlé.
La star, c'était l'équipe et le club. Quand on est remonté, c'est ça qui est plus important. Chacun donne sa part.
C'est vrai.
Après, il y a des joueurs qui sont plus exposés que d'autres parce qu'ils ont un poste qui font que, voilà, on les voit plus. Mais Cyril Courtin ou Hervé Milazzo étaient aussi importants que moi.
C'est vrai. Mm-hmm. C'est vrai. Hein, parce qu'en plus, vous avez connu cette première année de National qui a été difficile. Finalement, en 2001, vous connaissez le titre. Il y a 20 ans, on en parlait avec Désiré la semaine dernière.
Ouais.
Et puis tu joues après une saison aussi en Ligue 2 avec Grenoble, avec des gens, on va dire, qui étaient déjà là et qui sont revenus, comme Max Marty, Alain Michel, qui a connu aussi des années,
qui
disait que tu avais toujours des contacts. Quel souvenir tu gardes justement du côté du GF38?
Oh ben, franchement, c'est une ville et un club qui m'ont marqué, même encore aujourd'hui, parce que je reçois encore beaucoup de messages et ça c'est encore fou, je trouve. Mmh. 20 ans après de supporters via des réseaux. Le premier grand souvenir en fait, c'était mon attente pour venir, puisque mon ex-femme venait juste d'accoucher et Alain Michel était pressé que je vienne, mais je voulais pas venir parce que je voulais rester un peu avec mon fils. Ça a été mon premier grand souvenir. Donc j'ai dû faire la route quand même puisque le coach m'a insisté et je suis parti directement en stage. Mais en fait c'est les trois années qui m'ont marqué parce que je sais pas, je me sentais bien dans cette ville, dans ce club avec cette ambiance un petit peu chaude, ça me ressemblait bien. Je me suis vraiment sportivement en tout cas éclaté et j'ai pu donner le meilleur de moi-même grâce notamment évidemment au coach mais à tous les joueurs et la superbe ambiance qu'il y avait au sein du club.
C'est vrai que tu as connu une période, que moi je me souviens, parce que je commentais déjà les matchs, on sentait qu'il y avait un groupe qui vivait bien, qui respirait la bonne humeur, avec des joueurs de qualité, mais c'était surtout ce que tu disais, c'était pour moi un groupe qui était fédéré autour d'un coach, autour d'un club, autour même d'une ville, parce que le stade, pour un club de National League Ligue 2, vivait plutôt bien.
Ouais.
Et par rapport à ce qu'on peut faire un parallèle avec le groupe qu'on voit aujourd'hui du GF38, est-ce que tu penses que c'est à peu près les mêmes caractéristiques? On voit un groupe aussi qui vit bien, avec des joueurs de qualité, est-ce que c'est quelque chose qui peut faire la différence?
C'est la base. Pour moi, c'est la base. Même en étant aujourd'hui de l'autre côté, je me rends compte que c'est la base. Quand tu as la chance d'avoir un groupe qui vit bien, tu sais que c'est un groupe qui va tout donner. Alors peut-être qu'elle sera pas toujours très performante, mais en fait, tu sais qu'elle va rien lâcher. Et nous, c'est ce qu'on avait en fait dans cette année nationale où on a fini champion et bien évidemment, du coup, on est monté. C'est qu'on avait un groupe qui vivait bien en dehors, sur le terrain. On était toujours ensemble. C'était vraiment une famille. Et puis effectivement, le coach était très malin dans sa façon de nous gérer, parce qu'il nous laissait beaucoup de liberté, mais il savait que derrière on allait lui rendre. Et c'est ce qui faisait la force un peu de ce groupe, parce qu'on a fait quand même de grandes performances, avec notamment même le parcours en Coupe de France. Et il savait que de toute façon derrière les joueurs allaient tout donner. Mais c'est la base d'avoir un groupe qui vit bien, parce que vous savez que quoi qu'il arrive, ce groupe il lâchera pas.
Justement, on a parlé des bons moments, est-ce que ce match face à Troyes en Coupe de France, on s'en rappellera tous, n'est pas un de tes regrets du côté du GF38? Et il a marqué ce match.
Ouais, c'est le destin. On a mené 2-0, ils sont revenus à 2-2 en fin du temps réglementaire et on perd 4-2 aux prolongations. Je crois qu'ils reviennent sur un penalty, les petits jeux de mémoire. On n'a pas eu peut-être ce petit grain de réussite sur cette dernière occasion, sur un coup franc, il me semble, où il y a une faute. Voilà, c'est une chance sur deux. L'arbitre siffle pas. Effectivement, je reste convaincu. Je suis convaincu que si ce match-là on passe, on va au bout.
Ah oui.
Mais je pense aussi, hein, c'est qui va en finale? C'est pas Amiens qui est de l'autre côté va en finale?
Si, c'est Amiens, puisque je crois qu'après, en demi-finale, ils ont joué Amiens. Nous, c'était plutôt bien passé en championnat contre Amiens. On était solide, on était fort. Et je reste convaincu qu'on aurait pu jouer cette finale contre, je crois que c'est Strasbourg, de mémoire. Et parce que Strasbourg-Amiens, en finale, ça se joue au tir au but, il me semble, avec Chilavert qui fait la différence, si je me rappelle bien.
Ouais.
Mais bien évidemment, c'est un regret, mais ça fait partie, malheureusement, de la vie d'un footeur où ça c'est des mauvais moments, et en général on connaît plus de mauvais moments que de bons moments. C'est pour ça que quand on a des bons, il faut savoir les savourer.
Alors justement, toi qui as un œil quand même assez pointu sur la Ligue 2, parce que tu l'as suivi de près avec le Stade Brestois sur les années que tu as pu connaître, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de cette Ligue 2 avec justement le GF38 qui joue un peu son rôle d'outsider avec des gros cylindrés comme Toulouse et Troyes? Est-ce que tu penses réellement qu'ils ont des chances d'aller jouer peut-être un play-off, d'aller jouer peut-être la dernière place pour aller jouer la montée en Ligue 1?
Ah, le play-off, oui, je pense que c'est jouable. Toulouse et Troyes me semblent au-dessus depuis le début de saison, mais il reste encore beaucoup de matchs, même si ils ont l'air de se dégager un petit peu par leur façon de jouer, par leur efficacité. Après, il y a 4-5 équipes qui sont proches les unes des autres. Donc, ça va jouer sur des détails. Ça peut jouer sur les confrontations directes. Souvent, c'est le cas. Même si là, je crois que Toulouse a battu Grenoble. Mais voilà. Mais c'est jouable. C'est jouable. Après, les barrages, c'est toujours la même chose. Il suffit de peu de choses. On en revient un peu comme au match de Coupe de France qu'on parlait tout à l'heure. Ce sont des détails. Il faut être solide. Il faut être rigoureux. Et puis, bien évidemment, pour aller au bout, il faut avoir un peu de réussite. Donc, c'est ce que je leur souhaite. En tout cas, moi, je serais très heureux que le GF retrouve la Ligue 1, bien évidemment.
Ah bah c'est sûr que si on retrouve le Stade Brestois et le GF38 en Ligue 1, tu peux que être comblé sur
tes
ces deux amours.
Ce serait génial parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un club qui m'a marqué. Je pense qu'aussi c'est parce qu'on a réussi des résultats et qu'il y avait une ambiance de feu qui fait que chaque joueur qui est passé pendant cette période-là peut être heureux de ce qu'il a vécu.
Justement, vous avez laissé une belle image aux supporters et notamment toi. Est-ce qu'aujourd'hui t'as un message à leur faire passer, parce que je sais qu'ils nous écoutent nombreux et aussi sur les réseaux sociaux, en espérant que tu puisses leur rendre visite, hein. J'ai lancé l'idée de fêter les 20 ans du titre. Hein. C'est
annoncé. Ouais,
c'est vrai.
C'est une super idée. C'est une super idée. En tout cas, j'ai eu l'occasion souvent de discuter avec certains encore. j'avais l'occasion aussi de d'offrir le mon dernier maillot qui me restait du GF pour une collecte, je crois.
Tout à fait, il n'y a pas si longtemps.
Il y a eu un tirage au sort. J'ai toujours
des jambes. Ah, il t'en reste plus.
Non, j'ai plus. Mais je suis pas un grand, je ne suis pas un grand collectionneur, j'ai eu beaucoup de maillots. Mais comme je les mettais pas, j'ai préféré faire plaisir à plein de gens.
Tu as bien raison.
C'est tout à ton
honneur. Qui venait se servir. J'avais une malle où elle était remplie de maillots. Mais non, je suis pas un collectionneur. Je préfère que d'autres personnes les aient plutôt que moi les raisons d'une malle à ne rien faire.
C'est vrai.
Eh ben écoute, en tout cas, on voulait te remercier pour avoir répondu présent.
Ouais, merci
avec
Laurent.
Avec nous aujourd'hui,
merci
parce
beaucoup,
que c'est...
Bah, c'est gentil. Non, surtout merci de m'avoir invité. C'est super cool.
Bah écoute, ça nous paraissait normal, juste et un honneur pour nous. Donc en tout cas, on t'en remercie. Et puis n'hésite pas quand tu viens du côté de Grenoble à nous faire signe. On t'emmènera au stade avec grand plaisir quand ça sera possible.
C'est possible. Hein. J'ai encore des potes qui sont là-bas. J'ai Fred Guéguin qui est là-bas.
Fred Guéguin, l'entraîneur de la réserve.
Voilà, ah bah oui.
Voilà, j'ai Jémon Brice et Manu Pérez aussi, avec qui on s'appelle parfois, même souvent. Donc voilà, mais j'espère bien évidemment revenir. Et puis, ouais, ce serait vraiment sympa, parce que j'ai vraiment été marqué par cette ville.
Mm. Eh ben écoute,
à bientôt,
avec grand plaisir et à bientôt.
Ouais, et puis un gros maire de GF pour la suite.
Exactement, merci Laurent, à bientôt.
À bientôt, au revoir.
Bye bye. Ah, oh, quel régal.
Ah ouais.
Ça fait plaisir quand même.
Hein, c'était exceptionnel.
D'avoir des mecs comme ça, c'est agréable, c'est pertinent. En plus, il est toujours dans le football, donc il a un œil vraiment expert sur ce que peut faire.
Bah, j'ai eu le plaisir de découvrir un petit peu son palmarès, parce que c'est vrai que bon, moi, quand j'étais à Nantes, pour le coup, il était à Grenoble. Et puis après, une fois qu'il est revenu à Brest, bah, vous voyez, pour un Nantais, Brest, c'est pas forcément ce qu'on suit le plus. Mais c'est vrai que c'est un grand monsieur. Hein, c'est un grand monsieur. Sacré carrière.
Moi, je me souviens, moi j'allais au stade pour aller voir Laurent David. Hein.
Bah,
moi,
mais c'était
mon père, il y a Laurent David et tout, tu verras, il est fort et tout. Ah, je m'en souviens. Hein.
Non, c'était un plaisir. Mon Kevin,
je remets mon titre en jeu.
Non, mais déjà, où c'est qu'on est? On est sur RKS, le 97 FM, dans le RKS Foot Time Show. Il est 56e minute, ici 19h56, on va pouvoir faire le quiz qu'on a pas fait.
4 minutes, 5 questions. Voilà.
Depuis Mathusalem,
je vous ai dégoûté.
Jésus était avec nous.
Dit-il, il parle pas des pronos par contre sur lequel il est une quiche.
Il préfère se
On recommence à zéro. Hein.
Allez, on recommence à zéro.
Année,
on reste à zéro.
2020, c'était compliqué. On recommence à zéro. Allez, mon Kevin.
Jingle,
mais oui.
RKS Foot Time Show, le quiz.
On a des putains de moyens dans cette radio.
Ah ouais, ça c'est impressionnant. Merci encore à Jérôme.
RKS Foot Time Show, le quiz.
Bientôt on aura plus de temps pour les questions.
Allez, mon Kevin.
C'est parti. Catégorie joueur et coach. Le Brésilien Juninho excellait dans l'art de tirer les coups francs. Sur les 100 buts qu'il inscrit pour Lyon, combien l'était sur coups francs?
95.
Non, mec, exagère pas.
Sur les 100 buts,
75.
Ouais. 57.
Non.
58.
Non.
51.
60. Non. Allez, je vous donne.
Allez, donne-nous un indice.
C'est en dessous de 50.
Ah, 45.
47.
48. 46.
44. 43. 44.
Mais non.
Mais c'est quand même incroyable comme statistique.
44% de ses buts en coup franc quand même. Hein.
C'est stratosphérique.
Allez, un point pour Pierrot. Deuxième question.
Catégorie hors-jeu. Quel international français a été considéré comme apatride jusqu'à l'âge de 20 ans car il est né sur un bateau de réfugiés fuyant la guerre civile en Angola?
Bernard Diomède?
Non.
Govou?
Non.
Bernard Diomède, Sidney Govou, Marius Trésor, non c'est...
Allez.
Donne-nous un indice.
Un indice, il a joué
Salah.
À Lille.
Il a joué à Lille.
Jonathan Ikoné. Capitaine de Lille.
Jonathan Ikoné.
Il est encore...
Rio Mavuba.
Oui, Rio Mavuba. Un partout. C'est extraordinaire quand même qu'il y avait comme histoire.
Ça, c'est énorme, je savais pas.
Incroyable. Tu vois, on en apprend des choses dans le RKS Foot Time Show. Hein.
Rio Mavuba. Allez, troisième question.
Catégorie histoire et légende. Pourquoi les joueurs du Stade de Reims ont-ils inventé le corner à la rémoise joué à deux pour réduire les distances? À votre avis.
Joué à deux pour réduire les distances. Michel Platini devait être...
C'est très pointu comme question. À votre avis, pourquoi ils ont inventé le corner à la rémoise?
Pour réduire l'angle de...
Allez.
Pour pouvoir marquer direct?
Non, mais non.
Bah si,
tu peux marquer direct ton corner.
Ouais, si tu t'appelles Di Maria, il n'y en a pas beaucoup. Pour la
oui, justement, pour réduire l'angle de centre.
Allez,
À votre avis, c'était parce qu'ils n'étaient pas très puissants dans les tirs, ou parce qu'ils avaient un déficit de taille, ou parce qu'ils avaient peur du vent?
Déficit de taille.
Déficit de taille, Pierre l'a dit en premier.
Bah oui. Non, mais oh.
Clément Turpin, regarde là-bas.
2-1.
Allez, 2-1 pour Pierre.
Ou de l'agent.
2-1, allez.
Quel club est souvent présenté comme le doyen du football français?
Manchester United.
Le FC Nantes. Non, football français.
Ah, français. Yeah, Auxerre.
Non.
Auxerre.
Non.
Le stade de Reims.
Non.
La Saint-Etienne.
C'est libre pour son port.
RC Lens.
Marseille.
Ah, le Havre.
Oui, le Havre. Oh, oui. 3 buts à 1. Bon, allez, on va
on
aller.
Avait des bons programmes là-bas.
Ah non, encore une. On peut en avoir encore.
3-1.
Allez, dernier. Dernière quand même. Allez, tu peux sauver. Allez, il est facile celui-là. Quel ancien joueur de l'AS Monaco est le détenteur du record de sélection en équipe de
Thierry
France?
Thierry Henry.
Non. Non.
Marcus Thuram.
Mais non.
Lilian.
Lilian Thuram.
Ouais, 3-2.
Allez, c'est bon. Vas-y, encore une fois. Allez, tu te débrouilles,
Allez, un dernier.
Non, c'est terminé.
Clair et stade. Quelle est la célèbre devise de l'Olympique de Marseille?
Droit au but.
Droit au
but. Encore une.
T'as déjà perdu.
3-3. Quelle émission aujourd'hui.
Ouais, c'était ça.
3-2, c'était la bonne. C'était pour les
autres. Il nous reste 10 secondes pour clôturer. Vous allez voir là sur les réseaux sociaux.
Ah oui.
On vous l'a dit, le chute de. Il y en a quand même qui m'ont dit: est-ce que t'as eu un maillot de Sergio Ramos envoyé du Real Madrid? J'ai dit: je connais pas Zizou. J'ai pas d'entrée avec Zizou. Mais en tout cas, ça va arriver. Restez connectés.
Oui.
On est dans le RKS.
On le poste tout de suite dans les réseaux sociaux après l'émission.
À bientôt.
À bientôt.
Le RKS Foot Time Show. Ils aiment le foot. Ils sont amis, mais ils ne sont jamais d'accord. Rejoignez Melvin, Pierre et Kevin dans la nouvelle émission de débat 100% foot sur RKS.